Bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, présentée par Jeanne-Marie. Je suis historienne et j'ai envie de faire revivre le passé de notre département car son histoire est riche et mérite d'être mieux connue. Cette émission de 30 minutes sera mensuelle. J'y accueillerai un intervenant, historien ou archéologue, ou autre à qui je poserai des questions. Aujourd'hui, deuxième émission consacrée aux différents paysages landais au cours du temps. Toujours notre invité Didier Vigneault. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie.
Donc je rappelle à nos auditeurs que nous accueillons pour un certain nombre d'émissions Didier Vigneault qui est archéologue et qui a accepté très gentiment de répondre à mes questions à l'antenne de Radio MDM sur l'apport de l'archéologie à la connaissance de notre territoire. Et pour commencer, alors nous avons souvent lu ou entendu l'affirmation que les Landes, c'est un désert, le désert landais. Alors, qu'en penses-tu, Didier ?
Le fameux désert landais, qui d'entre nous n'a pas entendu cette expression ? Mais même si son origine vient du territoire de Landes qui existait avant la forêt, la question que tout le monde peut se poser, c'est est-ce que les Landes ont toujours été ainsi ? Et surtout, est-ce que l'archéologie peut répondre à cette question ? Alors c'est vraiment une tâche difficile, tellement le désert landais est devenu un paradigme, c'est-à-dire une vérité incontestable. Alors, je vais répondre à cette question par le grand oui. L'archéologie peut répondre de plusieurs manières sur le passé du paysage, grâce notamment aux spécialistes de l'archéologie, et plus particulièrement ceux de l'archéobotanique, comme les panylologues, les carpologues, les anthracologues, les xylologues. Mais aussi d'une certaine manière grâce aux textes anciens, grâce aux données sur l'occupation du sol.
Alors là, voilà une énumération de termes techniques qui vont faire frémir les auditeurs, n'est-ce pas ?
Je crois, oui.
L'archéobotanique, les palynologues, les carpologues, les anthracologues et les xylologues. Qu'est-ce que c'est que tous ces métiers, ou plutôt que sont ces spécialités au sein de l'archéologie ? Il y en a bien d'autres, mais au moins celles-là sont intéressantes pour notre propos d'aujourd'hui.
Alors, je vais y revenir plus tard, mais on va donc commencer par ceux qui étudient les textes anciens, notamment les historiens. Grâce à des descriptions qui sont faites dans les textes, les historiens peuvent connaître la composition des parcelles et ainsi évaluer le paysage d'un territoire donné pour une commune. On peut notamment savoir si les parcelles étaient composées de cultures, de landes, de forêts. Mais je pense que c'est ainsi que tu as toi-même procédé, Jeanne-Marie, pour le Marsan médiéval.
Oui. Alors, pour le Marsan médiéval, on a eu la chance de disposer notamment d'un terrier assez ancien qui était du début du, tout à fait début du 16e. Mais en dehors de celui-là, malheureusement, pas d'autres textes. Donc, quand les historiens peuvent, disposent, ça arrive en France. En France, il y a des régions où on dispose de cartulaires, c'est-à-dire d'ensembles de chartes d'origine ecclésiastique qui permettent de connaître le détail des parcelles. Ce n'est pas le cas ici. On ne peut pas aller au-delà du 16e.
Et dans le cas où il n'y a pas de texte pour les périodes plus anciennes, là, c'est l'archéologie qui peut s'appuyer sur les spécialistes de l'archéobotanique pour connaître le territoire et le paysage. Alors, je vais revenir sur les définitions des spécialistes que j'ai données tout à l'heure. Un palynologue, c'est le spécialiste des pollens. Il est capable de reconnaître l'essence du pollen et de comptabiliser les pollens dans un échantillon. Lorsque le terrain est favorable, mais c'est en général dans les milieux humides ou dans les éléments qui ont piégé les pollens, le palynologue va prélever des échantillons pour les transporter en laboratoire. Dans un programme de recherche que nous avions mené entre 2004 et 2007 sur le territoire du parc régional des Landes de Gascogne, 4 prélèvements avaient été effectués dans 4 différentes lagunes, une à Caninx, une à La Brite et 2 au sud Gironde. Et pour cela, le palynologue a utilisé une tarière pour prélever des carottes de tourbe qui ont physiquement l'apparence d'un long tube de terre. Ça ressemble donc à un long tube de terre qui ensuite va être sectionné en plusieurs morceaux. Et grâce à la présence de charbon qu'ils peuvent contenir, les morceaux sont ensuite datés par radiocarbone. Puis les palynologues vont procéder à l'inventaire des pollens de chaque échantillon sous microscope. Avec la synthèse des résultats de l'ensemble des échantillons, on obtient un diagramme pollinique qui montre le nombre de pollens de chaque essence végétale dans le temps.
Alors moi j'ai une question.
Oui.
Sur justement ces prélèvements de pollen. Bon, il y a des régions où on a fait beaucoup de prélèvements, en dehors des Landes. Mais ici, dans les Landes, est-ce qu'il y en a eu énormément? En tout cas, pour la partie, disons, Hautelande, hein, parce qu'en Chalosse, tout ça, bon, c'est un peu différent. On est dans un terrain différent, avec du relief, des sols qui sont un petit peu plus riches quand même. Mais dans la Hautelande, y a-t-il eu beaucoup de prélèvements de pollen?
Alors, il faut en effet des terrains favorables, des milieux humides qui soient favorables à la préservation des pollens. Et malheureusement, il n'y a eu que 4 prélèvements qui ont été effectués, ce que je viens de décrire. Mais il y a un nouveau programme de recherche qui devrait commencer l'an prochain et qui va, dans ce cas-là, pouvoir prélever d'autres échantillons pour pouvoir les analyser. Et on aura donc des données complémentaires sur le paysage ancien.
Parce que, par exemple, dans la Hautelande, il y avait, au XIXe siècle encore, des milliers de lagunes qui ont été asséchées. Et dans ces lagunes, je pense qu'il est possible, effectivement, là aussi, de mener des prélèvements.
Alors oui et non, ça va dépendre maintenant de l'assèchement des anciennes lagunes, savoir s'il y a toujours un battement de nappe phréatique et donc de l'humidité à l'intérieur de ces anciennes lagunes qui peuvent, elles, conserver des pollens. Si ces lagunes sont vraiment asséchées à 100%, les pollens ont été complètement détruits.
Alors, tu nous as parlé tout à l'heure aussi d'autres spécialités comme les anthracologues. Donc, nous t'écoutons.
Alors, les anthracologues, eux, quant à eux, ce sont les spécialistes des charbons. Lorsque l'échantillon le permet, ils sont capables de reconnaître l'essence d'origine et éventuellement de quelle portion de l'arbre provient le bois brûlé, mais aussi l'âge de l'arbre au moment de son abattage. Là, ce sont vraiment des spécialistes qui sont formés pour cela. Ces spécialistes sont intervenus au profit de l'archéologie préventive à Mazerolles très récemment, lors de la fouille précédant la construction d'un bassin de rétention d'eau au profit de l'agriculture. C'est une bassine qui a été réalisée pour pouvoir alimenter l'agriculture locale. Et dans ce cas-là, les archéologues et surtout les anthracologues sont intervenus.
Alors, encore une question à propos justement de cette spécialité. Quand on arrive à dater une poutre, par exemple, qui est très ancienne, alors ça peut être une poutre du XIVe siècle.
Oui, c'est
Mais voilà, elle se trouve dans un bâtiment, ça ne veut pas dire pour autant que le bâtiment est du XIVe.
Elle peut ou ne peut pas. Voilà. Ça va dépendre si la poutre a été réemployée. Oui. C'est-à-dire que si un bâtiment a été détruit précédemment et que l'on va réutiliser cette poutre pour construire un nouveau bâtiment, là, bien évidemment, le bâtiment ne datera pas du XIVe siècle. Il faut pour cela, c'est vrai, étudier la poutre en question, mais aussi étudier le bâtiment en question pour pouvoir donner une chronologie.
Très bien. Alors, maintenant, passons aux carpologues.
Alors, les carpologues, eux, ça va être les spécialistes des graines et des fruits. Ce sont des personnes qui vont être capables de reconnaître le type de graine, de la faire dater, et de savoir si cette graine est juste récoltée ou si elle a subi un traitement pour être prête à la consommation ou bien être moulue. Une carpologue, plus précisément, est récemment intervenue sur une découverte du Centre de recherche archéologique sur les Landes en étudiant les milliers de graines qui provenaient d'une fosse du bronze moyen qui est datée soit aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ. Donc là, ce sont vraiment des spécialistes qui sont, comme je l'ai dit, capables d'identifier, de reconnaître le type de graines, rien qu'en la voyant, bien évidemment, sous microscope.
Est-ce que ces graines sont, par exemple, éventuellement encore utilisables?
Non, la plupart ne sont pas, sauf dans les milieux humides où elles sont conservées, puisque la plupart des graines que l'on retrouve, dans la majorité des cas, sont brûlées et donc sont complètement inexploitables aujourd'hui.
Et enfin, nous terminons par les xylologues.
Quel drôle de nom. Enfin, oui, ce sont les xylologues. Hein. Ce sont des spécialistes qui sont capables d'identifier l'essence d'origine d'un bois ou d'un objet en bois. Hein. Et ils sont capables de l'identifier soit visuellement ou soit grâce aux empreintes qu'ils ont laissées, notamment dans la céramique. C'est le cas dans ce qu'on appelle le torchis. Le torchis, c'est la terre que l'on mettait sur les murs pour pouvoir réaliser une étanchéité. Et cette terre-là, pardon, était armée de morceaux de bois. Et grâce aux empreintes qu'a laissées le torchis, les xylologues sont capables de reconnaître l'essence qui a été utilisée. Et ils sont aussi capables de connaître l'âge de l'arbre et la saison de son débitage. C'est vraiment très intéressant de savoir à quelle saison l'arbre a été débité et quel âge il avait. Et ça permet de savoir si les personnes de l'époque ont pratiqué de la sylviculture ou pas, donc de la sylviculture raisonnée, ou s'ils avaient prélevé n'importe quelle essence de bois.
Mmh. Eh bien, alors, après ce panorama donc complet de ces spécialités de l'archéologie, on termine par un dernier avant la pause musicale.
Alors oui, il n'y a pas que ces spécialistes qui sont ici capables de connaître le territoire ancien. Il y a aussi les archéologues qui sont spécialistes des dynamiques d'occupation du sol et du peuplement. Alors il n'y a pas que des archéologues, parce que je sais qu'il y a certains historiens qui sont aussi capables de connaître les dynamiques d'occupation du sol et du peuplement. Mais ces spécialistes-là vont compiler l'ensemble des données, toutes les données dont on a parlé précédemment, plus les données sur l'archéologie, le nombre de sites, la répartition des sites sur un espace. Et l'ensemble de ces données vont permettre de définir le paysage d'un territoire donné, son évolution dans le temps, vont permettre de comprendre pourquoi les populations ont choisi ou non d'occuper certains espaces, et de comprendre aussi quelles étaient leurs ressources. Voilà, donc c'est très important et c'est très intéressant comme discipline pour essayer de comprendre ce qu'ont fait les populations anciennes.
Très bien, alors maintenant on va faire une petite pause musicale que tu vas nous proposer, Didier.
Je vais vous proposer une chanson qui est un petit peu en relation avec ce dont nous discutons aujourd'hui. Il s'agit de Laurent Voulzy, « Le pouvoir des fleurs ».
Des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, lila, c'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutaient en rêvant la petite fille autour de disque fort. Imagine le parfum, l'Éden, le jardin, c'était pour demain, mais demain c'est pareil, le même désir veille là tout au fond des cœurs. Tout changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Pour les enfants, les gens, les éléphants. Oh, tant de choses à faire, moi pour te donner du cœur. Je t'envoie des fleurs. On verra qu'on aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vives. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y'a une idée pas dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs.
Changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs.
Voici donc passer la pause musicale et nous allons reprendre donc le cours de cette émission, dont je rappelle qu'il s'agit d'enquête ou enquête d'histoire avec Didier Vigneault, archéologue. Alors Didier vient d'évoquer les apports des différentes spécialités de l'archéologie dans la connaissance des paysages landais, que l'on a longtemps qualifié, en tout cas pour la Haute-Lande du moins, de désert landais. Nous avons quand même pas mal de textes du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, voire du XXe parfois, qui disaient que vraiment ces régions étaient extrêmement inhospitalières, marécageuses, que les voyageurs qui donc s'y risquaient pouvaient être attaqués par des moustiques en permanence. Donc sans doute qu'il y en a eu, mais bon, ces paysages n'ont pas toujours été de grands marécages, et c'est ce que Didier est en train de nous expliquer. Alors justement, Didier, quelles sont les modifications dans la connaissance de ces paysages du passé que les recherches archéologiques ont apportées récemment ?
Eh bien, les résultats de toutes les études paléo-environnementales qui ont été réalisées dans notre secteur géographique, et surtout notamment les premières de 2004, nous ont tous surpris, puisque comme tout le monde, nous avions à l'esprit le fameux désert landais que l'on a appris à l'école lorsque nous étions scolaires. Mais ces études nous ont en effet montré que ce territoire de Landes, que nous connaissions via de nombreux textes, mais aussi grâce aux fameuses photographies de Félix Arnaudin, est un paysage relativement récent à l'échelle des données que nous avons.
Alors effectivement, je crois que d'une façon générale, nous nous basons sur notre mémoire, c'est-à-dire la mémoire des paysages que nous connaissons, la mémoire des paysages que nos parents ou nos grands-parents ont connus. Et forcément, c'est une échelle relativement courte, puisqu'il s'agit d'environ un siècle, voire peut-être 120 ans, 150 ans, 200 ans maximum, si vraiment on a la mémoire des différentes générations qui s'est bien transmise à l'intérieur des familles. Donc nous avons l'impression qu'il y a toujours eu de la lande, c'est ça.
C'est ainsi, ouais, c'est exact. Oui.
Voilà.
Et notamment aussi, les photos de Félix Arnaudin ont pas mal véhiculé ce concept de territoire de lande, qui a été utilisé d'ailleurs, qui ont été utilisées ces photos par Napoléon III pour justifier du fameux désert landais et décider d'une replantation à grande échelle du territoire landais.
Oui, en fait, c'est un peu une œuvre de propagande déjà à l'époque.
Ce n'était pas voulu, je pense, par Félix Arnaudin, mais ça s'est transformé en œuvre de propagande.
Propagande par Napoléon III.
Par Napoléon III.
Voilà.
Et jusqu'à présent, nous avons à l'esprit le fameux désert landais. Mais depuis, comme je l'ai dit, 20 ans, les choses ont changé. Même nous, en tant qu'archéologues, nous avons été tous surpris, parce que nous aussi, nous pensions comme acquis ce concept de désert. Et il s'avérait que ce désert, en réalité, apparaît entre 700 et 1000 après Jésus-Christ.
C'est-à-dire, en gros, pour situer l'époque de Charlemagne.
Oui, le début du Moyen Âge.
Un peu avant Charlemagne,
après Charlemagne.
Le début de Hucapé, par exemple, premiers rois, voilà, en gros.
Voilà, d'accord. Donc, avant, il n'y avait pas de désert landais, il n'y avait pas de territoire de lande, mais ce territoire de lande est vraiment récent. Avant cela, il y avait une forêt majoritairement composée de chênes, que l'on appelle une chêne mixte. Et cette forêt de chênes apparaît dès le néolithique ancien, vers 5700 avant Jésus-Christ, pour disparaître ensuite, comme je l'ai dit, aux alentours de 700 et 1000 après Jésus-Christ. Pardon.
Ce qui veut dire que le néolithique vers 5700 avant Jésus-Christ, ça nous fait donc, avec nos 2000 ans d'aujourd'hui, 7700 ans.
Oui, il y a 7700 ans que cette forêt de chênes est apparue. Mais il y a uniquement 1300 ans, entre 1300 ans et 1000 ans, qu'elle a été complètement détruite.
Oui, alors là, déjà, ça nous remet en perspective un petit peu cette échelle des paysages, puisqu'on voit que 1300 ans, en gros, de landes, c'est vraiment très peu au regard de tout ce qu'il y avait avant.
Ah, c'est ça, exactement, oui. Alors en réalité, c'est une période extrêmement courte, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre modèle paléo-environnemental.
C'est ça.
Le territoire de Landes est vraiment une période très courte.
Oui. Et alors, peut-être pourrais-tu nous expliquer ce qui s'est passé pour que cette forêt disparaisse ?
Eh bien, les spécialistes de l'archéobotanique ont découvert que depuis le néolithique ancien, c'est-à-dire aux alentours de 5500 avant Jésus-Christ, l'homme a exploité cette forêt par des coupes, en pratiquant parfois l'agriculture sur les anciennes parcelles forestières. ce qui veut dire que l'homme a coupé la forêt, et quelquefois, il y a eu de l'agriculture. Sur ces parcelles, la forêt a visiblement repoussé, et petit à petit, l'homme a créé des sortes de vides dans la forêt, donc des sortes de clairières, qui, au fil du temps, sont devenues de plus en plus importantes, puisque la forêt n'avait pas le temps de repousser. Donc, ce qu'on appelle une anthropisation, c'est-à-dire l'action de l'homme sur la forêt, était au début modérée et régulière, c'est-à-dire que ça ne se faisait pas à grande échelle, mais elle s'accélère ensuite à partir du néolithique final, vers 3500 avant Jésus-Christ. Donc pendant 2000 ans, pour résumer, pendant 2000 ans, on coupe la forêt, mais de temps en temps, et là, il y a une accélération vers 3500 avant Jésus-Christ, puis encore à l'âge du bronze, c'est-à-dire vers 1000 avant Jésus-Christ, où là, la forêt est coupée de façon beaucoup plus intensive.
Alors, ça veut dire que, si elle est coupée de façon beaucoup plus intensive, est-ce qu'il y avait davantage de population ? Hein, on peut penser que la population s'est développée, qu'il y avait plus de monde. Ils avaient besoin donc de davantage de place pour s'installer. Et donc, petit à petit, ils ont, disons, grignoté les lisières des clairières qu'ils avaient à leur disposition. C'est possible, ça ? Ou bien il y a encore d'autres phénomènes qui peuvent l'expliquer ?
Alors, il peut y avoir une conjonction avec certains réchauffements planétaires ou refroidissements planétaires, donc plutôt des modèles météorologiques, mais ils sont très très infimes comparés à l'action de l'homme. En effet, la forêt est une ressource fondamentale pour les populations anciennes, mais surtout actuelles et anciennes, bien évidemment, puisqu'autrefois, la majorité des objets étaient réalisés en bois. Tous les objets de la vie quotidienne étaient réalisés en bois. On pouvait avoir des pots, des objets de la vie courante, des parchemins. Donc le bois était vraiment une ressource essentielle pour l'homme. Et comme tu l'as dit, on pense que la population a augmenté et donc la demande en bois a été de plus en plus importante, impactant bien évidemment notre paysage. Plus la population augmente, plus la demande sera importante. Et il en va aussi de même pour les besoins politiques ou militaires, notamment lorsque les armées font campagne. Dans ce cas-là, elles ont aussi besoin de bois supplémentaire. Je prends le cas, par exemple, de la construction de navires, où là, il va y avoir une demande accrue en bois. Et là, il va falloir faire venir du bois de quelque part.
Alors, par exemple, dans l'Antiquité, à l'époque romaine, quand les Gallo-Romains... les Romains, d'abord, s'installent à peu près vers... disons, à partir de 52, nous avons la guerre des Gaules, avant Jésus-Christ, attention, 52 avant notre ère. Donc, et ensuite, eh bien, petit à petit, vont occuper l'ensemble du territoire, et notamment l'Aquitaine, jusqu'à la fin du 5e siècle, puis tout doucement, il y aura une transition vers autre chose. Et ça veut dire que donc, ils vont amener leur modèle de civilisation, qui est un modèle très différent du modèle précédent quand même. Bon, certes, qui fait appel à de la pierre dans la construction quand il y en a ici, il n'y en a pas toujours suffisamment, mais qui fait donc du coup appel beaucoup au bois.
Oui, tout à fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est, et comme je l'ai dit lors de la précédente émission, on est un territoire où il y a très peu de pierre, et donc toutes les constructions se font uniquement en bois. Et comme tu l'as dit, la romanisation, moi j'appelle pas d'occupation, enfin de romains qui viennent coloniser le territoire, c'est plutôt aussi une romanisation, c'est-à-dire qu'on va absorber la culture romaine, qui elle-même va intégrer certaines parties des cultures précédentes, mais la romanisation va faire qu'on va avoir une demande en bois beaucoup plus accrue, et on va surtout fournir l'armée romaine et les besoins donc politiques des Romains. D'où c'est ce besoin en bois qui va se faire sentir, et qui ne se fait pas sentir uniquement dans les Landes, mais qui se fait sentir aussi dans d'autres territoires, comme les Pyrénées par exemple.
Et en particulier, je crois que tu t'es rendu compte qu'il y avait une exploitation de goudron importante qui peut avoir joué aussi un petit rôle dans la déforestation locale, sur la côte.
Alors notamment au nord du département des Landes, donc dans le bassin de la Lair, oui, effectivement, il y a eu une exploitation de goudron. Ce goudron est fabriqué à partir de pin. Et pour donc obtenir ce goudron, il faut donc couper du pin et aussi couper certainement du chêne pour pouvoir alimenter le four nécessaire à la production. Donc il y a une gestion sylvicole qui s'est faite au moins au nord de la Lair, hein, enfin dans le bassin de la Lair plutôt, une gestion sylvicole qui s'est faite sur un territoire, chaque territoire ayant été géré différemment.
Alors, si on ajoute à cela le fait que les hommes à cette époque ne sont pas uniquement agriculteurs, mais qu'ils élèvent aussi du bétail. Et que, par exemple, à un moment donné, ben, le bétail, pour se nourrir, va brouter aussi des repousses de forêt.
Oui.
Est-ce qu'on n'amorce pas comme cela un cycle qui, finalement, va déboucher sur ce qu'on appelle ensuite le système agropastoral, c'est-à-dire une association agriculture-élevage, avec bah, effectivement une impossibilité pour la forêt de repousser, puisqu'elle est finalement petit à petit dévorée par les moutons. Il y a eu le cas, par exemple, dans le parc de Yellowstone. Hein,
ah oui, effectivement.
Aux États-Unis. Hein, oui.
Mais je pense qu'ici, enfin, ça, c'est un modèle qui est vrai pour le Moyen-Âge. Mm-hmm. Mais pour les périodes plus anciennes, je ne pense pas que l'agropastoralisme se soit développé de façon aussi importante. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que le besoin en bois était vraiment très important et les arbres n'avaient pas le temps d'attendre la maturité qu'ils étaient déjà prélevés. Donc, résultat, les forêts ne pouvaient pas se développer pleinement puisqu'il fallait, absolument du bois, notamment du bois de chauffage. Hein. Mmh. Il fallait du bois pour pouvoir être utilisé par la population locale. Alors, l'agropastoralisme s'est développé après. Ça a généré un autre problème, comme tu le dis, puisque les troupeaux mangeaient les pousses d'arbres. Et effectivement, la forêt n'a pas pu se développer.
Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, on peut dire que c'est une catastrophe environnementale ?
Ah, oui. Alors, on est vraiment sur la première catastrophe environnementale, locale surtout, hein, puisque cette forêt a été exploitée à outrance et elle n'a donc pas pu arriver à maturité. Et on est donc arrivé ensuite sur un territoire de lande. Donc, d'un territoire de forêt, on est passé à un territoire de lande par l'action de l'homme et uniquement par l'action de l'homme.
Eh bien, ce serait bien qu'aujourd'hui, ce phénomène soit suffisamment connu. Nous allons conclure cette émission sur cette idée. Alors, merci beaucoup encore pour cette participation, Didier.
Merci à toi, Jeanne-Marie.
L'émission suivante va passer le mardi 21 novembre à 13h30, puis ensuite le dimanche 26 à 13h. Et donc... au revoir aux auditeurs de Radio MDM. Au revoir Didier.
Au revoir Jeanne-Marie et à la prochaine émission.